France Culture.
Le journal de la rédaction, Julie Paco, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à tous. Les Gazaouis tentent de survivre malgré la pluie. Alors que 92% des bâtiments résidentiels sont détruits ou endommagés dans l'enclave, les abris de fortune érigés ne résistent pas aux inondations. Donald Trump lâche du lest sur les droits de douane. Face au mécontentement de ses électeurs confrontés à la hausse des prix, le président américain renonce aux taxes imposées à certains produits du quotidien importés. Enfin, nous reviendrons sur une invention révolutionnaire qui a transformé la vie de milliers de personnes déficientes visuelles. Le braille fête ses 200 ans, mais reste encore trop peu maîtrisé. Pour en parler, notre invité est Bruno Gendron, président de la Fédération des aveugles de France. Les bombardements, la famine et désormais les inondations. Dans la bande de Gaza, les réfugiés gazaouis subissent de plein fouet les premières pluies de la saison hivernale. Sous les tentes et abris de fortune, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, l'eau s'accumule et les inondations se multiplient. La situation humanitaire est désormais alarmante, d'après les équipes de la défense civile contactées par Lucas Lazo.
De retour d'une tournée hier soir dans les camps de déplacés du nord de la bande de Gaza, Mahmoud Bassel, le porte-parole de la défense civile, décrit des conditions désespérées.
Dans certains centres d'hébergement, le niveau de l'eau a dépassé les 10 cm. Les tentes sont inondées, les matelas sont trempés, les couvertures aussi. Nous en sommes au point où les personnes qui avaient pu trouver un endroit où se mettre à l'abri doivent maintenant quitter les lieux à nouveau.
Un contexte d'autant plus délicat que les rues sont elles aussi inondées, les secours. Cour peine à intervenir et à porter assistance aux populations sinistrées. La défense civile de Gaza est débordée par la situation.
Depuis l'aube, nous avons reçu des centaines d'appels de la population qui nous demandent de l'aide. Mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons aucune capacité d'intervention suffisante.
Pour Riyad Hamaoui, humanitaire à Nusayrat, il est urgent de laisser l'aide humanitaire partiellement bloquée par les autorités israéliennes pénétrer la bande de Gaza selon les termes de l'accord de cessez-le-feu.
Nous ne comprenons pas ce que le monde attend avant d'autoriser l'entrée de milliers de tentes, d'abris et de logements temporaires pour protéger les gens de la pluie.
À l'approche de l'hiver, plus de 250 000 familles gazaouis, 1,5 million de personnes seraient en danger selon les ONG palestiniennes.
Lucas Lazo, correspondant de France Culture à Jérusalem. La situation à Gaza et les États-Unis qui font pression pour convaincre de la nécessité d'adopter leur projet de résolution comprenant le plan de paix de Donald Trump. Plan qui prévoit de donner un mandat jusqu'à fin 2027 à un organe de gouvernance de transition pour administrer Gaza, présidé par le président américain, et plan qui autorise également le déploiement d'une force de stabilisation internationale. Un texte qui sera donc mis au vote au Conseil de sécurité de l'ONU lundi. Donald Trump opère une première volte-face dans sa politique tous azimuts des droits de douane aux États-Unis. Le président américain a décidé de lever une partie des taxes qu'il avait imposées sur des produits du quotidien importés, comme le café, les tomates ou encore le bœuf. Donald Trump recule, donc sous pression de ses électeurs, asphyxiés par l'inflation et à un an des élections de mi-mandat. Tim Rose-Turk.
Des électeurs mécontents des prix dans les rayons des grandes surfaces qui continuent à monter malgré les promesses de campagne de Donald Trump, 3% d'inflation sur un an et même jusqu'à 19% pour le café. De récents sondages indiquent qu'y compris chez les électeurs républicains, la politique économique du président est critiquée. Cette déception est sûrement l'une des raisons des bons résultats démocrates lors d'élections locales il y a 2 semaines. Depuis, la Maison-Blanche tente de rectifier le tir. La présidence lève donc les droits de douane sur le café, les tomates, le bœuf, mais aussi sur le thé, le cacao, les épices, certains fruits comme les oranges ou les bananes. Aveu d'échec de Donald Trump, ces droits de douane affectent bien le pouvoir d'achat des Américains. Le président a également promis il y a quelques jours de verser 2 000 $, environ 1 700 euros, à tous les Américains, excepté les plus riches. Un chèque financé grâce aux droits de douane.
Lui s'était inspiré de l'assaut du Capitole en incitant ses partisans à marcher sur les lieu de pouvoir au Brésil en 2023. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a désormais de fortes chances de se retrouver derrière les barreaux. La Cour suprême brésilienne a rejeté hier le recours en appel de l'ancien chef d'État après sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Assigné à résidence depuis le mois d'août, Jair Bolsonaro pourrait donc être incarcéré fin novembre. Au Brésil, où annulé ces 3 dernières années en raison de l'hostilité des pays organisateurs, la COP30 renoue avec les mobilisations de la société civile mondiale. Pour la première fois depuis la COP26 de Glasgow, des milliers de militants s'apprêtent à défiler dans les rues de Belém. Cette marche mondiale pour le climat vise à rappeler à mi-parcours des négociations que les solutions climatiques ne seront légitimes que si elles sont construites à partir des personnes qui subissent l'effondrement climatique, rappelle Greenpeace. Et dans le cortège, Véronique Repérotte, des citoyens brésiliens, mais pas seulement.
Casquette et t-shirt rouge, la couleur du mouvement des paysans sans terre, Inès Mar attend un raz-de-marée dans les rues de Belém. Une marche qui rendra visible des mouvements en lutte permanente au Brésil qui reviennent de loin. Inès Mar.
Le gouvernement défaillant sous l'ère Bolsonaro a cherché à anéantir tous les mouvements, les luttes et les conquêtes des peuples. Et lors de ces dernières COP, il n'y avait pas de manifestation, de sommet des peuples, de contrepoint à la COP officielle. Or ici au Brésil, nous pensons qu'il faut débattre avec la société civile, avec un gouvernement aujourd'hui progressiste, et dire ensemble qu'un changement est possible.
Paysan en retraite, membre de la Confédération Paysanne, ex-producteur de fromage de qualité, précise-t-il, près d'Annecy, Pierre Maison, encore sous l'effet du décalage horaire, manifestera avec ses collègues brésiliens.
Ça permet de se rendre compte que les luttes ne sont pas si différentes que ça. Quoi. C'est souvent des objectifs quand même assez communs de lutte contre les multinationales, contre le néolibéralisme qui essaie de s'accaparer le vivant. Quoi.
Vous allez manifester avec qui alors?
J'ai mon drapeau de la Confédération Paysanne et de la Via Campesina, mais voilà. Confédération Paysanne, je suis peut-être tout seul, mais non, je ne suis pas tout seul. Je suis l'un des tout seuls, il y a des paysans de partout. Quoi.
1200 mouvements sociaux et ruraux pourraient défiler sous leur bannière dans les rues de Belém.
Le maire de Verdun, Samuel Hazard, s'érige contre la tenue d'une messe dans sa ville en hommage à Philippe Pétain, illustre soldat de la Première Guerre mondiale, mais surtout chef du régime de Vichy qui a collaboré avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde. Une messe autorisée par la justice administrative hier. Une manifestation s'est donc tenue devant l'église fermée et réservée aux membres de l'association organisatrice. Et on apprend à l'instant que le préfet va porter plainte pour propos révisionnistes tenus en marge de cet hommage à Philippe Pétain. Eux veulent faire entendre l'impérieuse nécessité de protection des enfants et des adolescents. Le collectif enfantiste appelle à des rassemblements aujourd'hui dans une quarantaine de villes en France. L'appel à manifester a été signé par près de 90 organisations. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, dont 77% au sein de la famille. Il fête ses 200 ans et se bat toujours pour continuer d'exister. Le braille, alphabet universel qui permet de lire du bout des doigts grâce à un système de points en relief, est aujourd'hui maîtrisé par 15% seulement des près de 2 millions de déficients visuels en France. Bonjour Bruno Gendron.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Vous êtes président de la Fédération des aveugles et amyopes de France. Merci d'être avec nous sur France Culture. Comment expliquer ce chiffre? Pourquoi le braille est si peu utilisé?
Alors en fait, ce chiffre, il est parfois sujet à caution parce qu'on ne sait pas bien comment il est calculé, mais pour autant, on sait que le nombre de lecteurs braille est assez minoritaire. Alors il est minoritaire parce que la cécité et la malvoyance, elles s'origine plutôt en fin de vie, dans les âges plutôt élevés de la vie. Et puis aussi parce que aujourd'hui il y a une opposition, non pas entre le braille classique et le numérique, mais plutôt entre le braille et l'audio, où on pense que l'audio pourrait se substituer à la lecture et à l'écriture, ce qui n'est absolument pas vrai. C'est pas vrai pour une personne voyante, comme ça ne l'est pas pour une personne aveugle.
Dans quelle mesure, selon vous, cet alphabet universel qui devrait être reconnu par l'UNESCO l'an prochain est menacé par les avancées technologiques?
Alors, en fait, c'est un stéréotype qu'on a effectivement, c'est qu'il serait menacé, surtout quand on l'oppose à l'audio. Quand on est sur l'idée que le numérique favorise aussi la production du braille, aujourd'hui, on peut, grâce à des imprimantes braille, imprimer des ouvrages avec un nombre d'exemplaires, avec les quantités qu'on souhaite, de manière beaucoup plus facile que ça ne l'était par le passé. Et puis, il existe ce qu'on appelle les afficheurs braille, qui permettent de lire et d'écrire du braille sur des terminaux numériques. Donc, en vrai, il n'y a pas une si grande opposition que ça. Par contre, là où il y a une opposition, c'est entre l'audio et la lecture et l'écriture braille.
Mais vous le dites, hein, aujourd'hui, le braille, c'est l'unique garant de l'accès à une lecture, à une écriture de qualité pour les déficients visuels.
Oui, parce qu'en fait, comment on pourrait imaginer qu'une personne aveugle, si on la compare toujours à une personne voyante, on l'empêcherait de savoir lire et écrire. Le braille, c'est un code d'écriture et de lecture. Et donc, ne pas apprendre le braille, ça veut dire ne pas savoir lire et écrire, ça veut dire... Quand on a un texte à écrire de façon un petit peu posée, on va pas pouvoir se reprendre. C'est pas pareil que de dicter un texte. Et puis, lire un ouvrage en audio, eh bien, on est aussi en lien avec l'interprétation qu'en donne le lecteur, qui est souvent une interprétation intéressante. Mais ça reste pas, c'est comme la lecture en tant que telle pour une personne voyante.
Dans ce contexte, de quel soutien le braille pourrait-il ou devrait-il même bénéficier de la part notamment des pouvoirs publics?
Alors, la chose, elle est claire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de départements en France et à l'outre-mer dans lesquels il n'y a pas d'enseignants spécialisés en braille, des enseignants spécialisés formés à l'apprentissage du braille, donc avec la difficulté ensuite de pouvoir le transmettre aux enfants. Et pour les adultes, il faut aussi qu'il y ait des formateurs de braille pour qu'ils puissent effectivement apprendre le braille en toute autonomie.
Plus d'enseignants donc.
Plus d'enseignants et plus d'enseignants spécialisés et formés. À la Fédération des aveugles de France, on est très soucieux de la qualité de la formation des accompagnateurs de personnes déficientes visuelles. Évidemment, les enseignants spécialisés en font partie.
Alors aujourd'hui, on célèbre les 200 ans du Braille, mais aussi le premier anniversaire du campus Louis Braille à Paris, dédié à la recherche fondamentale, à l'innovation technologique et à la formation au service des déficients visuels. En quoi ce site change la donne pour vos vies quotidiennes ?
Alors en fait, le Campus Braille est une initiative de 4 partenaires de la Fédération des aveugles de France. Et le fait d'avoir un lieu où se cristallisent les recherches, les innovations technologiques, favorise effectivement l'inclusion des personnes déficientes visuelles. Encore faut-il, et c'est aussi le rôle des associations, pouvoir aller vers l'usage de ces nouvelles technologies. Parce que c'est bien d'avoir des nouvelles technologies, c'est encore mieux de pouvoir les utiliser en toute autonomie, là aussi avec des professionnels qualifiés et compétents.
C'est entendu. Merci beaucoup Bruno Gendron. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des aveugles et ambliopes de France. Merci également à Éric Chavroux pour la préparation. Éric Chavroux qui signe par ailleurs l'info culturelle sur la reconnaissance du braille par l'UNESCO à retrouver sur notre site franceculture.fr. Autre événement qui se termine aujourd'hui, le congrès de l'Association française de criminologie qui fête ses 60 ans. Cette association qui réunit des chercheurs intervenant dans le champ pénal entend défendre la création d'une filière universitaire dédiée en France. Car s'il y a bien quelques initiatives qui existent pour s'y former, la criminologie n'est en effet pas toujours reconnue comme une discipline à part entière. Anne Fauquemberg.
La criminologie, c'est l'étude du phénomène criminel dans son ensemble, ce qui inclut la création des lois, la violation des lois et la réaction sociale et répressive face à cette violation. Il s'agit d'un champ à la confluence de multiples approches, de la psychologie au droit, en passant par la sociologie, la médecine légale ou encore l'économie, avec pour but notamment d'éclairer les politiques publiques, explique Hélène Vuidard. Elle préside l'Association française de criminologie.
Les données scientifiques sont malheureusement trop peu utilisé comme socle pour telle et telle politique publique. Par exemple, c'est arrêter de faire au doigt mouillé en disant la prison c'est la solution, construisons des prisons. C'est une chose de neutraliser, effectivement, pour pas qu'il y ait de récidive. Mais en termes de sens donné à une personne qu'on met sous les verrous et dans le système tel qu'il est carcéral, tel qu'il est aujourd'hui, les études ont démontré que c'était pas nécessairement le meilleur moyen pour transformer son rapport à la loi ou rapport à l'autre.
Cet exemple, Hélène Vuidard aimerait ne plus le donner, mais la France semble avoir du retard sur ces questions comparativement à d'autres pays comme la Belgique ou le Canada où la criminologie est institutionnalisée. Des pays vers lesquels d'ailleurs se tournent de nombreux étudiants français, poursuit la présidente de l'AFC.
Le problème c'est qu'ils y restent parce qu'ils y sont bien traités, ils sont reconnus. Et voilà, la criminologie n'est pas reconnue en France, donc ensuite pour travailler dans le domaine de la criminologie, c'est compliqué. Vous devez ensuite réintégrer une étiquette psychologue, juriste, psychiatre ou agent de probation, mais c'est difficile de faire valoir véritablement ses acquis universitaires.
d'où cette demande de création d'une filière universitaire. À l'occasion de ce colloque d'ailleurs, des criminologues belges et canadiens viendront témoigner du développement de ce champ dans leur pays.
Anne Fauquemberg, la météo cet après-midi avec un ciel qui restera très chargé sur de nombreuses régions. Les averses localement orageuses persistent de la Bretagne au Grand Est et du Jura à la région PACA. Les maximales affichent 14 à 18 degrés en moyenne au nord, 16 à 21 degrés au sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Brice Garcia, Alex Dang à la technique.